Nous allons continuer notre étude sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va regarder le passage Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix de grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux, et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, le titre que j'ai donné au message qu'on va étudier, c'est L'agneau et l'Église triomphante dans la gloire, qui est un encouragement puissant à l'Église militante sur la terre. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'on veut dire par tout cela tantôt. On va regarder trois points dans l'intérieur du sermon d'aujourd'hui, c'est qu'on va regarder la victoire dans la gloire qui va être certifiée dans le verset 1, la victoire dans la gloire qui est célébrée dans le verset 2 et 3, et la victoire dans la gloire qui est caractérisée dans le verset 4 et 5. Si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir le temps de notre étude et qu'il fasse en sorte par son Saint-Esprit que nous ayons l'esprit ouvert, réceptif, et que nous soyons obéissants à appliquer dans nos vies les principes contenus dans la leçon qu'il veut nous donner aujourd'hui. Alors, notre Dieu, notre Père, notre Roi, Seigneur, tu es grand au-delà de toute capacité humaine de conception. Sois adoré. Nous t'aimons. Tu nous as aimés de toute éternité. Tu nous as choisis en Christ, tu nous as élus et tu nous as régénérés un moment dans notre histoire humaine par le Saint-Esprit. Tu nous as ouvert les yeux sur notre état de perdition. Tu nous as aussi fait connaître la glorieuse et puissante personne de Jésus-Christ et son œuvre et ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux et tu nous as donné la vie éternelle, un cadeau d'une infinie valeur. Alors, Seigneur, ouvre-nous les yeux à la compréhension de ces choses et permets que ce passage-là que nous allons étudier aujourd'hui puisse contribuer à nous édifier et aussi à nous rapprocher de toi et à faire en sorte qu'on veuille vivre une vie encore plus sanctifiée pour ta plus grande gloire. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, dans le titre du sermon, on avait utilisé les mots triomphante et militante en parlant de l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement lorsqu'on dit une chose pareille? Dans la théologie biblique, on distingue ces deux états de l'Église-là. Et c'est important de faire la distinction parce qu'on va comprendre un peu plus tard que le titre d'utiliser le mot Église triomphante et Église militante est vraiment justifié. L'Église triomphante, c'est l'ensemble des authentiques croyants qui sont décédés et qui sont déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ils ont gagné la bataille, ils ont fini leur course et ils attendent la résurrection finale. Ça, c'est l'Église triomphante. L'Église militante, elle, c'est l'ensemble des croyants véritables qui sont encore sur la terre et qui mènent le bon combat, pour utiliser les mots de Paul. Ce sont ceux qui doivent encore se battre pour rester fidèles au Seigneur et à ses enseignements. Et aussi ceux qui doivent se battre pour rejeter toutes les séductions de Satan. Alors, eux, ils se doivent de persévérer jusqu'à la fin, malgré les souffrances et malgré les difficultés. Ce qui est important à réaliser quand on passe du chapitre 13 au chapitre 14, plusieurs commentateurs nous font la remarque, ils nous disent que le chapitre 14 ne suit pas chronologiquement la vision des deux bêtes du chapitre 13. Autrement dit, c'est pas après, dans le temps, c'est que la technique qui est utilisée par le Saint-Esprit, c'est celle du contraste. Le Seigneur commence par nous montrer l'aspect négatif, l'aspect de l'œuvre du malin, qu'on a vu dans le chapitre 13, donc les deux bêtes, la bête de nature politique et la bête de nature religieuse. Et ça nous dit qu'ils vont avoir un succès et qu'ils vont réussir à vaincre l'Église jusqu'à un certain point. Alors, ce qui est important de réaliser, c'est que le chapitre 14 nous est donné par le Saint-Esprit, par l'apôtre Jean, pour encourager les chrétiens de l'époque, pour leur montrer que, oui, Jean leur montrait une réalité qui était très difficile à accepter, mais en même temps, il voulait leur montrer par contraste, un peu comme quand si quelqu'un veut photographier un chat blanc, il ne le mettra pas sur un fond blanc, il va le mettre sur un fond noir, et vice-versa. Alors ici, on voit que le chapitre 13 est un chapitre sombre, et le chapitre 14 est un chapitre beaucoup lumineux, où Jésus-Christ est dans son aspect victorieux et mis en perspective. Alors c'est important de réaliser que les deux chapitres, c'est pas des choses qui se suivent chronologiquement, mais que ce sont des choses qui sont regardées dans des perspectives différentes. Le chapitre 13, il décrit le royaume de l'Antichrist, tandis que le chapitre 14 décrit le royaume de l'agneau, donc celui de Jésus-Christ. Donc après, c'est très... Dieu fait bien les choses, il nous montre d'abord le côté sombre, pour ensuite, tout de suite, nous présenter le côté lumineux, comme pour encourager ceux qui venaient de recevoir l'information de qu'est-ce qui se passait, et là où tout ça semblait vouloir se diriger. Alors, le Saint-Esprit utilise les contrastes pour mieux illustrer les différences entre le royaume de Satan, qui sont décrits dans le chapitre 13, où on voit le royaume, où on voit la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Et dans le fond, on se souvient que la bête qui sort de la mer, c'est l'aspect politique, tandis que la bête qui sort de la terre est plutôt l'aspect religieux, idéologique, philosophique de l'œuvre de Satan. Et quelque part, les différences entre le royaume de Satan, on a vraiment regardé ça un petit peu plus en détail dans le chapitre 13. Maintenant, le Saint-Esprit veut qu'on voit le royaume de Christ, ceux qui sont déjà en présence du Seigneur. Dans le fond, ce que Dieu veut que ses enfants comprennent, c'est qu'il veut leur montrer qu'ils vont rencontrer des difficultés, qu'ils vont connaître des souffrances, mais que la victoire finale, dans le fond, leur est assurée. Alors, j'avais trouvé dans le commentaire de Joel Bickey, qui a écrit un commentaire sur l'Apocalypse, une remarque qu'il fait dans son commentaire qui est importante à réaliser. Et voici ce qu'il nous dit, je le cite. À la fin du chapitre 13, il semble que le royaume de Christ est une cause perdue. Quand vous lisez sur le royaume de l'Antichrist, la stratégie du dragon et de ses complices, les deux bêtes, et comment Satan domine et influence toute la terre, l'avenir semble sombre pour le peuple de Dieu dans ce monde. Mais alors, Jean regarde à nouveau et ce qu'il voit l'étonne. Il dit, j'ai regardé à nouveau, et cette fois, j'ai vu les choses d'un point de vue différent. J'ai vu les choses du point de vue du ciel. J'ai vu les choses spirituellement. J'ai vu l'agneau debout en majesté sur la montagne de Sion, avec tout son peuple sous sa protection. Quel réconfort cette vision a dû être pour les gens de l'époque de Jean. Alors, pour ceux qui veulent vérifier la source, j'ai donné tous les détails, où j'ai pris ça, à quelle page, et ça a été, j'ai utilisé Google Translate, et là où il y avait besoin de petites corrections, je les ai fait. Et si dans le texte vous voyez quelque chose de souligné, juste pour mentionner que c'est pas souligné dans le livre, mais que c'est moi qui a voulu le souligner pour que vous compreniez exactement le commentaire de Joel Bickie. Alors, on pourrait voir une idée équivalente de ce qu'on est en train d'étudier dans la description de l'expérience d'Élisée et de son serviteur lorsque, à Dothan, le peuple de Dieu était entouré de puissants ennemis et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était dans une situation de désespoir et croyait qu'il était sur le bord de connaître une cuisante défaite. Alors, on lit le passage juste de manière à ce que on fasse le parallèle entre le passage qu'on est en train d'étudier et celui de l'expérience d'Élisée et de son serviteur. On a ça dans 2 Rois, au chapitre 6. On va lire les versets 8 à 17. Or, le roi de Syrie, faisant la guerre à Israël, tenait conseil avec ses serviteurs, disant, « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël, « Garde-toi de négliger ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya vers le lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé, l'avait averti, et il était sur ses gardes. Cela se fit plus d'une et de deux fois. Et le cœur du roi de Syrie en fut troublé. Et il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne me découvrirez pas vous lequel des nôtres est pour le roi d'Israël ?» Et l'un de ses serviteurs lui dit, « Il n'y en a point au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. » Alors il dit, « Allez, voyez où il est, et je l'enverrai prendre. » Et on lui fit ce rapport. « Voici, il est à Dothan. » Et il y envoya des chevaux, des chars et une troupe considérable qui arrivèrent de nuit et environnèrent la ville. Or, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin et sortit. Et voici des troupes avec des chevaux et des chars environnaient la ville. Et son serviteur lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Ô Éternel, daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, bien entendu, l'histoire nous raconte l'histoire d'un roi qui voulait conquérir Israël, et chaque fois qu'il avait une tactique d'attaquer un endroit, une ville ou une autre, ou un coin ou un autre, et il était toujours déjoué, mais il croyait que c'était un traître parmi ses dirigeants qui dénonçait ses tactiques au roi d'Israël, et que c'est pour ça que ça marchait jamais. Et à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui a dit, Non, il n'y a pas personne qui était un traître parmi les leaders des Syriens, mais c'est le prophète. Le prophète qui est en Israël. C'est lui qui comprend les paroles que tu dis dans ta chambre, mais sûrement que Élisée connaissait ces choses par le Saint-Esprit, par une révélation de Dieu. Alors, il a dit, le roi, il a dit, ben là, si c'est lui qui fait tout ce trouble-là, organisez-vous pour savoir où qu'il se situe, on va aller le chercher, on va arrêter son petit, ses manigances. Alors, c'est là que ça se dit qu'il a envoyé des chevaux, des chars et une troupe considérable qui arrivèrent de nuit et environnaient la ville. Alors, Élisée est avec son serviteur. Son serviteur, lui, il voit qu'ils sont entourés de troupes, de chevaux et de chars, et il est découragé. Il dit, comment qu'on va faire? Élisée, il a répondu, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et là, dans le verset 17, Élisée prie, et voici, il dit, ô Éternel, daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dans le fond, c'était un peu une situation similaire. La situation semblait désespérée. Il était sûr qu'il était à se faire écraser, littéralement. Et Dieu permet, par la prière de son serviteur, que le serviteur d'Élisée ait les yeux spirituels ouverts pour qu'il voie que Dieu avait envoyé une protection au peuple d'Israël sous forme d'une armée céleste. Quand ça dit dans le verset, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, il est en train d'y montrer qu'il y avait une armée céleste qui avait été envoyée et que c'est pour ça que Élisée n'était pas nerveux du tout. Alors, Dieu a permis que Élisée, par sa prière, le serviteur d'Élisée ait les yeux ouverts et qu'il voit. Et quand on regarde la suite de ce passage-là, on voit que Dieu a permis que le roi de Syrie n'ait pas la victoire et ça a tourné positivement pour Israël. Alors, c'est juste pour nous montrer que des fois, quand on lit le chapitre 13, on peut être dans un état similaire à celle que Élisée était avec son serviteur à Dothan. Parce qu'on regarde ça, puis c'est en train de nous dire que Satan va avoir la victoire, puis Satan va réussir certaines choses, et c'est normal qu'on ait peur. Et alors, le passage ici, le début du chapitre 14, a pour but de montrer au peuple de Dieu qui voyait la situation, qui semblait désespéré, il voulait leur faire fixer les yeux sur le ciel pour qu'ils comprennent que leur victoire finale est assurée. Alors on va regarder le premier point, la victoire dans la gloire est certifiée. Verset 1. Alors, quand on regarde le verset 1, Jean dit, je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Alors, bien entendu, la nouvelle vision que Jean a ici est absolument complètement différente des visions terrifiantes des chapitres 12 et 13 précédents. Alors, ici, je pense que quand les Écritures nous parlent de l'agneau, je pense qu'on a suffisamment de connaissances du Nouveau Testament pour identifier très facilement qui est l'agneau. Alors, on avait vu dans le chapitre précédent qu'il y avait eu, quand on parlait de la bête qui sortait de la terre, qu'elle ressemblait à un agneau, mais qu'elle parlait comme un dragon. Et ici, le Seigneur veut nous montrer que le véritable agneau, l'authentique agneau, et non pas le faux agneau du chapitre 13, il veut nous montrer son identité. Il est au ciel, il est en position debout et il est en position de majesté, il est en position de puissance, de règne. Et l'évangile de Jean ne nous laisse aucun doute sur l'identité de l'agneau qui est mentionné ici. Bien entendu, on peut, si on va dans Jean chapitre 1, verset 29, on a exactement, et il pourrait avoir d'autres versets, mais Jean 1, 29 va être suffisant. Je lis Jean 1, 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ici, l'agneau est très clairement identifié comme étant Jésus lorsqu'il est venu faire son œuvre de rédemption sur la terre. Et il y a quelque chose d'important aussi à réaliser, c'est que c'est sa position. Il est debout et il est à un endroit particulier. On nous parle de la montagne de Sion. Alors, la montagne de Sion, n'a plusieurs que lorsqu'ils ont interprété l'Apocalypse, on cru que c'était définitivement Jésus sur la montagne de Sion, la montagne physique. Et nous, on croit que c'est vraiment la montagne de Sion, elle est symbolique et elle représente vraiment le ciel. C'est comme, après avoir montré aux croyants qu'est-ce qui se passait sur la terre et les victoires apparentes du malin, le Seigneur veut nous montrer que l'apparente victoire est fausse, parce que le roi, Christ, est au ciel et il règne, et il est avec tous ceux que le Père lui a donnés, et qu'il n'en manque pas un. Et alors, on va aller faire une lecture dans le psaume 2 qui est très important pour qu'on se rende compte que dans le fond, le règne de Christ au ciel, c'est quelque chose qui lui a été donné par décret divin, par décret du Père. Alors, on va aller regarder le passage du psaume 2 et on va lire les 12 versets. Psaume 2. Alors, ça nous montre que le règne de Christ dans le ciel a été donné au Fils par le Père, par décret. Alors, il n'y a rien qui peut empêcher la réalisation, l'accomplissement du décret divin. Alors, on lit le chapitre 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors, il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors vraiment, ici, on a la question de la montagne de Sion. C'est vraiment le règne du Christ du haut des cieux. Quand il dit dans le verset 6, « Et moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Alors, bien entendu, on pense qu'il ne parle pas de Sion, la ville de Jérusalem, mais qu'il parle de la, on pourrait dire, la Jérusalem céleste, la montagne sainte. Et ce qui est en train, ce qu'on veut comprendre ici, c'est le décret. Ce que l'Éternel a décidé par décret de toute éternité et qu'il a dit à son fils, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. » Alors, comment, dans le chapitre 13, on voit que Satan cherche à s'accaparer des nations, à les soumettre à sa volonté, et on voit que c'est complètement inutile et vain, parce que le Seigneur dit qu'il rit de ça, parce qu'il est sûr que qu'est-ce qu'il a décidé va s'accomplir parfaitement. On a aussi un autre passage dans le Nouveau Testament qui nous parle de l'identité de la montagne de Sion. Dans Hébreux, chapitre 12, les versets 22 à 24. Ici, il parle à des croyants. Il dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. » Alors le Seigneur veut que nous sachions avec certitude que les gouvernements et les institutions humaines, avec leurs idéologies, leurs plans, ne peuvent d'aucune façon ébranler la solidité du décret divin concernant Jésus-Christ et son royaume. Et on parle ici d'un nombre. On parle de les 144 000 qui sont déjà en présence de l'agneau. Alors, s'ils sont déjà en présence de l'agneau, ce sont les chrétiens qui, au cours de l'histoire, sont décédés, soit naturellement ou soit d'une autre façon, et qui sont déjà dans la présence, on parlait de l'Église triomphante. Dans le fond, ici, qu'est-ce que le Seigneur a voulu? C'est que les croyants voient l'Église triomphante. Autrement dit, tous ceux qui ont été des véritables croyants, des véritables élus, choisis souverainement par Dieu, ils sont au ciel. Et le chiffre 144 000, c'est un chiffre symbolique qui signifie la totalité de ceux qui ont été choisis par Dieu. Ceux qui sont déjà décédés, et ça comprend, bien entendu, on avait vu dans des chapitres précédents aussi, que dans le fond, dans le chapitre 7, par exemple, on avait parlé encore une fois de ce chiffre-là des 144 000. On l'avait déjà identifié, que les 144 000, dans nos études précédentes, comme l'ensemble des croyants de toutes les époques. Alors, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle. Alors, les 144 000, c'est l'ensemble. Pourquoi 144? Il y a 12 fois 12. 12, c'est le chiffre, le nombre des tribus d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, le 12, c'est les 12 apôtres, avec tous ceux qui sont devenus des croyants par la prédication des apôtres. Et le 1000, souvent dans les Écritures, le chiffre 1000, donc 12 fois 12, par 1000, ça fait 144 000. C'est vraiment un chiffre. Le 1000 veut dire un nombre qui n'est pas nécessairement déterminé en termes. Le 144 000, c'est un chiffre symbolique. C'est très important de saisir ça parce qu'il y en a qui ont donné des interprétations très fantaisistes à la Bible. Alors, on avait vu que c'était. Alors, j'ai utilisé. Une citation, dans l'étude de Paulin Bédard, il avait écrit dans un article qui s'appelait « L'agneau et les 144 000 sur la montagne de Sion ». dans son étude qu'il avait fait sur Apocalypse 14 et versets 1 à 5. J'ai pris ça sur son site web qui s'appelle Ressources chrétiennes. Et il y a quelque chose qui mentionne ici pour justement identifier les 144 000. Voici ce qu'il dit, je le cite. Ces 144 000 représentent symboliquement tous ceux qui appartiennent à Dieu et à Jésus-Christ, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, comme on peut le lire dans Hébreux, chapitre 12, verset 23. Tous ceux qui ont été scellés par Dieu selon son plan rédempteur. Leurs robes ont été lavées et blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Il s'agit donc de l'Église universelle, de toute l'assemblée des rachetés du Seigneur, purifiée par le sang de l'agneau, qui reçoivent leur citoyenneté céleste éternelle, une destinée totalement différente de ceux qui ont reçu la marque de la bête sur la main droite ou sur le front, comme on avait vu dans le verset 16 du chapitre 13. Alors, plusieurs auteurs, et donc on a mentionné, on l'avait vu dans des leçons précédentes, on a ici une confirmation par le pasteur Paul Bédard et deux autres. Bien sûr, on aurait pu aller bien plus loin que ça, donner une série de citations, une série. Mais un des auteurs les plus connus qui a écrit sur le livre de l'Apocalypse, c'est J.K. Beale, J.K. Beale, B-E-A-L-E. Lui aussi interprète le passage exactement dans le même sens. Ceux qui sont intéressés à faire des études approfondies de l'Apocalypse, bien sûr, j'ai un volume, il y a beaucoup de pages, alors, mais c'est très intéressant. Alors, voici ce qu'il dit, lui, concernant la signification symbolique du chiffre 144 000. Alors, je le cite. « Les noms du Christ et du Père, écrits sur le front des 144 000, contrastent avec le nom de la bête, écrit sur les fronts des incroyants, chapitre 13, versets 16 à 17. Le nombre 144 000 connote l'exhaustivité, ou on pourrait dire la complétude, du vrai peuple de Dieu, en opposition au 666 sur le front des adeptes des deux bêtes, ce qui signifie leur incomplétude dans la réalisation du dessein divin pour l'éternité. Ils sont plutôt la totalité du peuple de Dieu à travers les âges considérés comme de vrais Israélites. » Encore une fois, quand je cite des auteurs comme ça, bien entendu, l'original, c'est dans le livre J.K. Beale, The Book of Revelation, et c'est à la page 633, et pour que vous puissiez profiter du sens de ce qu'il dit, concernant les 144 000, bien sûr, je le fais traduire par Google Traduction, et ensuite, je corrige là où ça doit être revisé et corrigé. Et à l'intérieur du texte que vous allez voir dans vos notes, quand je mets quelque chose en caractère gras, c'est moi qui l'ai mis, juste pour que vous puissiez saisir le sens de ce qu'il est en train d'enseigner. Alors, J.K. Beale, ça c'est un des auteurs modernes les plus connus dans le sens de l'interprétation de l'Apocalypse. Lui aussi, il va avec l'interprétation des 144 000 comme étant la totalité du peuple de Dieu à travers les âges. Donc, on parle de complétude ou d'exhaustivité. Quand on dit quelque chose de façon exhaustive, ça veut dire complète. Et on a un troisième. Je me sers aussi du pasteur Joel Wicky, qui est un homme aussi très connu aux États-Unis. Alors lui aussi, il parle dans son commentaire Revelation, à la page 338, voici ce qu'il dit. De même, les chiffres de l'Apocalypse doivent être compris spirituellement. 12 est le nombre de l'Église. Il y a 12 patriarches d'Israël dans l'Ancien Testament. Les 12 apôtres du Nouveau Testament sont le fondement de l'Église. Et 144 000, soit 12 fois 1000, représentent l'Église complète. C'est le nombre symbolique des élus pour lesquels le Christ est mort. Les 144 000 représentent la grande multitude des rachetés que personne ne peut dénombrer. Alors, très intéressant de voir qu'il y a chez les auteurs conservateurs une unanimité concernant la signification du nombre 144 000, qui est la totalité des croyants de toutes les époques. Alors, ceux qui sont déjà en présence de Christ au ciel, bien sûr, il en reste sur la terre qui, eux, sont dans l'Église militante, donc dans l'Église encore sur la terre et qui doivent lutter contre le malin. Et à quelque part, c'est important de réaliser que les 144 000, c'est les deux groupes qui, éventuellement, ceux de la terre, vont aller rejoindre ceux du ciel parce que ils ont été élus par Dieu souverainement et le nombre est tellement sûr. Quand Dieu fait quelque chose, il l'accomplit toujours à la perfection, ce qu'il dit. Alors, quand on est des élus de Dieu, des véritables croyants, tout est dans la question de l'authenticité de la conversion, quand on est des véritables croyants, c'est sûr que peu importe ce que le malin peut entreprendre dans le but de nous éloigner, de nous faire taire, etc., il ne réussira jamais. Il peut réussir à nous fermer la bouche physique, il peut nous enlever la vie, il peut nous faire souffrir, il peut nous emprisonner, il peut nous torturer, il peut faire plein de choses. Mais on a une certitude dans les Écritures que quand Dieu sauve quelqu'un, peu importe ce que le malin tentera dans le but de l'éloigner ou de lui faire perdre sa relation avec Christ, c'est impossible. Parce que Dieu, la décision divine, il n'y a pas personne qui va... Alors, les 144 000, c'est vraiment l'idée que Dieu, la totalité de ceux que Dieu avait prévus qui finiraient au ciel, leur destinée éternelle, il y en a un certain nombre qui sont déjà en la présence. On le sait, on a plusieurs... frères et sœurs qui sont décédés, et on sait que par le témoignage de leur vie qu'ils sont au ciel actuellement. On a justement quelqu'un dans l'Église récemment qui est décédé. On a tous la conviction qu'elle est au ciel, et toutes les Églises connaissent ça, toutes les familles chrétiennes connaissent ça, tous les chrétiens ont connu des gens qui, au cours de leur vie, ont eu des vies qui démontraient l'authenticité de leur foi, et on sait qu'ils sont déjà au ciel. La seule chose qu'on sait aussi, c'est que les 144 000, c'est la totalité des véritables croyants, des véritables élus qui ont été choisis souverainement par le Seigneur. Très important de réaliser qu'il y en a parfois qui ont témoigné être croyants. Souvent, on utilise le mot « professant ». Il peut y avoir des gens qui, au cours de leur histoire, sont venus en contact avec les Églises, mais qui, lorsqu'il y a eu des problèmes, ils ont abandonné. Et les Écritures nous montrent que ceux qui abandonnent, c'est parce qu'ils n'étaient pas des véritables croyants. Alors, faut pas avoir peur. Si on est des véritables croyants et qu'on suit Christ, on va automatiquement aller au ciel, et c'est assuré. Et c'est important pour les chrétiens de l'époque qui vivaient des difficultés très grandes. Et quand on arrive dans l'écriture d'Apocalypse 13, pour eux, il n'y avait pas grand-chose d'encourageant là-dedans, de se faire dire que le malin aura un certain succès et qu'il réussira à faire taire l'Église jusqu'à un certain point. Alors, ici, le chapitre 14 est amené de façon très sage et très intelligente de la part de Dieu et pour encourager son peuple et pour faire un contraste après le tableau très sombre d'Apocalypse 13, nous voyons le tableau très lumineux et de Christ déjà au ciel avec les siens qui sont déjà en sa présence. Alors, il y a quelque chose de fortement encourageant là-dedans. Et pourquoi ça a été mis tout de suite après le chapitre 13, quand on rouvre le chapitre 14, on change de registre, on passe d'un registre extrêmement sombre et presque décourageant à un registre vraiment plus encourageant, de voir que peu importe ce que Satan va tenter, peu importe ses apparentes victoires, dans le fond, la véritable victoire, le véritable triomphe sera toujours celui de Christ et de ses élus qui, éventuellement, ceux qui sont au ciel, bien sûr, ils profitent déjà de la félicité céleste, mais ceux qui sont sur la terre, bien sûr, ils peuvent traverser des difficultés, mais on sait que on ne devrait pas avoir peur parce qu'on sait, peu importe ce qu'ils vont essayer de nous faire, ça va toujours être un échec parce que Dieu, lorsqu'il élit quelqu'un au salut éternel, il n'y a absolument rien à faire pour lui enlever ça. On ne croit pas que le salut se perd. Parce que les enseignements des Écritures sont très clairs là-dessus. Quoi qu'il y en a qui contestent cela, mais nous, on a la conviction que les véritables élus de Dieu, les véritables croyants, peu importe ce que le malin va chercher à faire, vont toujours être gagnants. Alors, on est des gagnants à cause de Christ. Alors, ce qu'on va faire, vu que le texte aujourd'hui est un petit peu plus... J'ai réussi à passer à travers juste le verset 1, et on va continuer la semaine prochaine à terminer le passage des versets 2, 3, 4 et 5 du chapitre 1, du chapitre 14, c'est-à-dire les versets 1 à 5. On va terminer notre étude la semaine prochaine. Alors, on va terminer là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne, dans sa bonté, d'être éclairé sur la compréhension du texte et que ce soit un encouragement pour nous dans les temps difficiles, parce que je pense que l'étude qu'on est en train de faire a des liens très importants avec la situation actuelle qui se passe sur la Terre. Alors, pour nous, c'est quelque chose d'encourageant de savoir que peu importe les subtilités ou les attaques, la violence des attaques du malin, on va toujours demeurer des gagnants à cause du décret divin et à cause de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, on va terminer là-dessus. À la semaine prochaine.